L'évangile pour le couple. L'évangile pour le couple. Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Alors Maud, nous voici pour une deuxième étape dans ce cheminement de quatre émissions que nous faisons sur l'Esprit Saint qui vient renouveler profondément notre vie conjugale. Et donc la dernière fois, Maud, nous avions abordé toute l'importance d'accueillir l'Esprit Saint en s'appuyant sur le texte de Nicodème. Et aujourd'hui, nous allons davantage faire un focus, si on peut dire, sur comment l'Esprit Saint vient vraiment nous aider à combattre en nous l'esprit du mal.
Voilà, nous allons pour cela partir du texte de Saint Luc sur les brebis. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et vient à en perdre une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules. Et de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée ma brebis qui était perdue. » C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir.
Voilà, et cette parole du Christ pour ses brebis, aujourd'hui nous abordons cette question du mariage, de la vie conjugale, de la vie amoureuse. Et voilà, il y a beaucoup aujourd'hui, particulièrement dans notre monde, Maud, des brebis justement qui sont perdues, qui souffrent de toutes ces différentes situations. Et donc le Christ est donc beaucoup plus présent, sa mission est vraiment avec le souci de guérir, de libérer couples et personnes qui en ont besoin, plutôt que de simplement côtoyer les couples et les familles parfaites. Il est venu vraiment pour tous ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps, dans leur âme. Voilà, il y a beaucoup plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repentit, pour quelqu'un qui est malade et qui est guéri.
Oui, le Christ vient par son œuvre et toute sa vie est donnée pour que nous soyons libérés et guéris. Donc quand nous sommes malades et blessés et handicapés de l'amour, comme on a souvent utilisé cette expression-là, c'est bien l'œuvre de l'Esprit que de vouloir intervenir là justement où nous sommes dans nos incapacités, où nous sommes dans nos limites, où nous sommes dans nos blessures, où nous sommes dans notre péché. Jésus nous recherche dans cette situation-là et ne s'est fait jamais aussi proche que lorsque nous souffrons. Il a lui-même traversé toute mort et toute souffrance pour justement nous aider, nous, à moins souffrir et à moins porter. Il est là pour nous libérer.
De l'expérience de l'enfant prodigue, et on pourrait dire aussi aujourd'hui au niveau des couples prodigues, voilà, cette démarche intérieure où face à l'amour du Christ, face à l'amour de Dieu, nous pouvons, en raison de cet amour, rentrer en nous-mêmes pour dire oui, j'irai, nous irons vers notre Père, et j'irai lui dire tout mon péché, j'irai, il va me prendre, il va m'aimer, il va me guérir. C'est cette expérience de la guérison et du pardon de notre péché qui est fondamentale. Parce que c'est le premier désir du Christ, c'est de guérir notre péché, qui est cette infidélité à l'amour. Et j'en suis responsable.
Voilà, il y a aussi, je pense qu'il faut préciser dans cette dimension de guérison et de libération, qu'il y a un peu deux natures de choses à guérir en nous. Il y a tout ce qui relève du péché, qui est, comme tu dis Alex, un acte volontaire, parfois involontaire, au sens où, par omission si je puis dire, on ne fait pas attention, mais qui est quand même dû à notre faute, à notre action ou à notre non-action. Et puis après, il y a aussi tout ce qui provient de nos blessures. Alors bien sûr, les psychologues en ont amplement parlé. Nous ne sommes pas des spécialistes de la psychologie enfantine et de toutes les blessures qui peuvent avoir lieu. Mais nous savons tous, parce que nous avons une histoire humaine, à quel point nous sommes aussi marqués par des blessures sur lesquelles le Christ peut aussi intervenir.
Voilà, nous avons perdu notre père, notre mère tôt. Nous avons été... Il y a beaucoup d'aléas de la vie sur lesquels ce n'est pas l'expérience de notre péché, mais qui vont nous blesser, mais dans lesquels va pouvoir justement, à partir de cette blessure, se greffer comme des expériences ou des conséquences du péché. Et de cela, le Seigneur, à la fois de notre péché et de nos blessures, le Seigneur vient nous libérer, vient nous accorder sa grâce pour que justement, au milieu de ces difficultés, il puisse nous mener vers une guérison, vers une transformation, une purification, une dilatation de notre vie.
Voilà, on parle du mot libération parce qu'il est vrai que quand on a des blessures ou quand on est, je dirais, enclin à des péchés un peu systématiques, on n'est pas libre, c'est-à-dire qu'on devient esclave de sa blessure. On réagit d'une façon qu'on ne peut pas maîtriser, on a l'impression qu'on est comme programmé. Dès qu'on appuie sur un bouton qui touche telle ou telle zone de notre être qui est sensible et fragile, boum, ça part tout seul.
Parce que ces péchés et cette blessure ont comme répondu en nous comme un peu un poison intérieur qui fait que, voilà, on est la grâce de Dieu, l'image de Dieu qui est en nous a du mal à s'exprimer, à se dilater. Et c'est là où le travail de l'Esprit Saint qui conduit la miséricorde de Dieu, qui conduit sa grâce, nous permet vraiment de guérir et de toute l'importance de la vie spirituelle qui, au fur et à mesure, pétrir, bien comme pétrir avec un onguent, notre corps, notre cœur, notre âme, pour qu'il nous mène à la guérison, avec cette parole du Christ, je suis venu pour qu'ils aient la vie, et la vie en abondance. Donc c'est bien Jésus, et par son Esprit Saint, qu'il vient nous donner la vie dans cette abondance.
Les choses se compliquent, Alex, c'est que effectivement l'Esprit Saint est là pour intervenir dans nos vies, pour peu qu'on le prie et qu'on l'invoque et qu'on lui demande de faire aussi, de nous aider à faire ce travail de libération, pour que le Christ passe sur nos blessures, comme on peut essayer de dire un peu maladroitement. Mais à côté de nous, il y a aussi des obstacles, et des obstacles qui viennent du grand combat que Jésus lui-même a affronté contre le mal.
Voilà, et cet esprit du mal, justement, que l'Esprit Saint vient combattre, je crois que c'est important de même si jamais c'est un côté qui n'est pas forcément très agréable, mais de bien l'identifier. Qu'est-ce qu'on combat? C'est l'esprit de division. Et ça, combien nos couples en souffrent, malgré l'amour qui nous lie et qui est le cœur de notre alliance. Bien sûr, c'est les divisions qu'il peut y avoir dans les couples, le manque d'amour, de blessures, et même de vives réactions l'un envers l'autre. C'est vraiment l'esprit de division.
Puis il y a aussi un esprit qu'il faut combattre avec vigueur dans un couple, c'est l'esprit de mensonge qui fait tordre la réalité, qui la détourne à notre intérêt ou qui la présente d'une façon maladroite. L'esprit critique, je peux dire aussi cynique, la médisance. Tout ça, ce que Saint Jean appelle et dénomme justement le mal comme le père du mensonge. Donc tout ce qui a trait au mensonge, nous devons vigoureusement le combattre.
Et puis cet Esprit Saint vient vraiment aussi combattre en nous l'esprit d'impureté. Alors particulièrement pour la vie conjugale, dans tout le domaine de l'affectivité, de la sexualité, etc. Et donc, et c'est justement l'esprit d'impureté qui fait souvent, justement, la mot tu parlais du prince et du père du mensonge, qui vient prétendue liberté, libération sexuelle, au contraire, nous enchaîner, on y reviendra. Et donc cet esprit de simplement de pure jouissance, qui n'est qu'une fuite insatiable. Voilà. Et si jamais justement cet esprit d'impureté n'est pas dompté, n'est pas converti, alors nous sommes comme enchaînés. On parle aussi d'addiction sexuelle, d'addiction érotique, qui peut guetter des couples, des conjoints, l'homme ou la femme également. Et donc cet Esprit Saint vient nous aider à combattre.
Voilà, alors l'esprit vient aussi nous libérer de tout un domaine dont on ne parle pas très souvent, mais qui est tout ce qui concerne les forces occultes, comme tout ce qui est divination, tout ce qui est magie, tout ce qui est même horoscope et toutes ces choses-là, qui nous lient dans une espèce de vision du monde, comme si tout était prévu par destin et qu'on n'ait plus qu'à rentrer dans notre petite case pour exécuter ce qu'on est programmé pour faire. Le Christ, il fait exploser tout ça. Et il nous demande de ne pas rentrer en lien avec ces forces-là, de ne pas jouer avec, de ne pas, si je puis dire, avoir comme une sorte de relation « je t'aime moi non plus » avec ce genre de choses.
Il y a un autre esprit que l'Esprit Saint vient combattre, c'est l'esprit d'idolâtrie. Et surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, dans lequel justement, soit le sexe, on l'a un peu évoqué, mais l'argent est complètement idolâtré.
Les biens,
l'image sociale, etc. Pour ces questions-là, combien de personnes, de couples, même chrétiens, vont sacrifier, je dirais, à cette idolâtrie de tel pouvoir, de telle image sociale, de l'argent, etc. Et donc, nous avons à en être libérés.
Voilà, l'Esprit Saint, en fait, vient essayer de nous soutenir dans ce combat contre tout ce qui oppose au royaume de Dieu et tout ce qui peut remettre en cause l'avenue du royaume et l'avenue de ce que nous avons décrit comme étant un état de paix et de joie profonde qui sont la signature de l'Esprit Saint.
C'est l'Esprit Saint qui nous conduit justement à mener le combat du Christ contre les forces du mal. Et c'est ce combat qui est avec le Christ et vraiment libérateur. On se retrouve dans un instant. Nous voilà donc sur cette émission où nous méditons sur l'action de l'Esprit Saint qui vient nous libérer. Et nous voulons insister dans cette deuxième partie, Maud, sur vraiment l'action de l'Esprit Saint qui vient guérir et libérer du mal toute notre vie, tout notre être personnel et conjugal. Et d'abord, Maud, l'esprit, l'intelligence.
Voilà, on va faire un peu un scanner de notre organisme. Alors, on commence par l'intelligence. Et finalement, l'intelligence, c'est ce qui nous permet aussi d'accéder au sens de la vérité. Rappelez-vous, dans la Genèse, nous avons, par orgueil, pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et des mal. C'est-à-dire que tout est mélangé et que nous sommes dans un monde où parfois nous appelons mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Et voilà que l'Esprit Saint va éclairer notre cœur ou notre, je dirais, l'intelligence l'intelligence de notre cœur pour que, grâce aussi à notre cerveau, nous puissions discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et découvrir vraiment ce qui est de l'ordre du bien, du bon, du juste, et ce qui est au contraire division, mal, haine, etc.
Voilà, et puis je crois que ce qui est important justement au niveau de l'intelligence, c'est que l'intelligence nous permet de saisir la vérité qui est le Christ. Et c'est ce que disait Jean, vous connaîtrez la vérité, voilà, la vérité. Et Paul disait aussi à Timothée que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et quelle est cette vérité? Là aussi, Jean est très très clair, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc notre intelligence doit arriver à accueillir que la vérité, l'aune de la vérité, il n'y a pas simplement des vérités, il y a des vérités humaines, mais il y a une vérité universelle et biblique, c'est le Christ.
Voilà, et le remède, la porte pour découvrir cette vérité, c'est l'esprit d'enfance dont parlait par exemple petite Thérèse, qui est cette humilité qui fait qu'on ne se prend pas la grosse tête, d'ailleurs l'expression française veut bien dire ce que ça veut dire, et qu'on reste dans une intelligence au service de la perception de la vérité des choses, et dans une humilité, dans une écoute de l'esprit, dans une docilité. Et c'est cette pauvreté, si je peux dire, spirituelle, qui va être le premier remède contre notre plus grand défaut à tous, qui est l'orgueil.
Voilà, alors l'Esprit du Christ vient aussi nous libérer, pas simplement au niveau de l'intelligence, mais aussi au niveau de notre cœur. Et c'est tout ce qui est lié à notre relation, et notre amour, notre relation avec les uns avec les autres. Rappelez-vous, on avait beaucoup insisté sur l'effet de la fracture du péché dans notre être relationnel. Nous avions le péché nous a fracturé dans notre relation avec Dieu, avec les autres, et donc particulièrement avec notre conjoint, et aussi avec nous-mêmes. Et justement, l'Esprit Saint, en faisant fructifier le salut, vient justement nous relier avec notre Père, avec notre conjoint, nos parents, avec ceux qui nous entourent. Il vient nous relier et aussi avec nous-mêmes. Et donc, c'est vraiment l'action du Christ, l'action de l'Esprit Saint vient, entre guillemets, au fur et à mesure, éliminer, marginaliser ce qui nous empêche d'aimer comme Jésus. Donc, au niveau du travail, au niveau de la jalousie, de l'envie, du ressentiment, etc., etc., qui perturbe tellement notre vie. Nous y reviendrons un peu plus loin en travaillant sur nos émotions qui sont aussi liées avec la question de la relation.
Alors avant les émotions, il y a aussi le corps. Le Christ vient aussi par l'action de l'esprit toucher notre corps. Nous savons que nous sommes corps, âme, esprit, une seule personne, puisque c'est vraiment le projet de Dieu d'avoir un seul être dans toutes ses dimensions. Donc ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur, ce combat que nous vivons dans notre cœur, se traduit aussi dans notre corps. Et nous avons à la fois à nous réapproprier notre corps, c'est-à-dire retrouver une harmonie, une unité intérieure entre nous, et à la fois à nettoyer notre corps de tout ce qui peut être symptôme de notre mal-être. Et il y a beaucoup de maladies qu'on appelle entre guillemets psychosomatiques, parce que c'est comme ça qu'on l'exprime, mais qui sont en fait une dégradation de notre état intérieur qui va jusqu'à faire souffrir notre corps par des symptômes plus ou moins difficiles à diagnostiquer d'ailleurs. On voit le symptôme, mais on ne sait pas très bien à quoi c'est dû, et on tourne un peu autour de la question, et la médecine est un petit peu en délicatesse pour savoir ce qui se passe vraiment. Et parfois, il faut aller regarder au cœur.
Et même, je veux dire, il y a des choses qui sont extraordinaires au niveau du corps, sur le corps conjugal, sur une seule chair. Nous connaissons un couple d'amis, justement, où lui a, au bout d'un certain moment, il avait vraiment un pardon, une guérison vraiment spirituelle à recevoir. Il l'a vraiment accueilli lors d'une semaine de retraite, agapé. C'était vraiment quelque chose de très important pour lui. Sa femme avait depuis des années mal au dos. Mais vraiment à ne pas pouvoir marcher à certains moments, il est rentré, en une semaine, son mal de dos était terminé. Et elle n'a plus mal. Donc il y avait comme un lien, entre une articulation, entre le travail spirituel que son mari avait à faire, et elle qui vraiment le vivait comme dans son corps. Et cette libération spirituelle de son mari a comme fructifié dans son corps. Donc vous voyez comme ce travail, cette articulation du travail du cœur, du corps et de l'esprit sont profondément articulées.
Voilà. Il faut quand même préciser, c'est plus facile de dire après coup quand la guérison est arrivée qu'il y avait un lien.
Je veux dire, il fallait discerner, qu'il y avait un lien.
Voilà, et puis on ne peut pas non plus tout expliquer ce qui arrive à notre corps par des combats intérieurs. Mais par contre, ne négligeons pas que le corps est aussi un indicateur parfois d'une tension intérieure sur laquelle nous avons à laisser le Christ faire son œuvre de salut, donc lui déposer tout ça pour qu'il puisse intervenir et intercéder pour que le Christ, parfois on prie pour notre guérison de notre corps, mais on ne prie pas pour la guérison de la cause de la maladie de notre corps, et parfois c'est dans le cœur que ça se passe. Donc peut-être qu'il faut orienter nos prières plus en demandant à l'Esprit Saint de venir nous éclairer sur nos véritables blessures profondes intérieures qui parfois influent jusque dans notre corps.
Alors, on l'a signalé tout à l'heure, il y a aussi toute la question de le Seigneur vient nous guérir et nous libérer aussi au niveau de nos émotions. Et effectivement, il y a toute une série de sentiments qui ne sont pas des sentiments de l'Esprit Saint, mais que justement l'Esprit Saint vient transformer et guérir. On peut les évoquer, il faudrait passer beaucoup de temps dessus, mais là, souvent la tristesse qui est le contraire de ce que le Seigneur promet. Votre tristesse se changera en joie, dit le Christ à ses apôtres. La joie est le fruit intérieur, spirituel, de cet accueil, de cette libération.
Voilà, l'inquiétude aussi ne devrait pas être si nous sommes complètement libérés, parce que l'inquiétude, c'est justement la marque de la manque de confiance dans le Père, la manque de confiance en Dieu. Et nous savons que nous devons écouter la parole de Jésus, ne soyez pas inquiets, ne soyez inquiets de rien, votre Père céleste sait tout. Donc nous devons nous accrocher à cette confiance pour lutter contre l'inquiétude.
De même au niveau de la peur, Jésus nous dit très clairement, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'on craint? Alors, c'est aussi au niveau du doute, d'une certaine angoisse, etc. Alors que le Seigneur nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, accueillez ma paix. Bon, on dirait, ouais, avec ces mots, c'est facile, là, vous avez l'impression de décréter ça comme ça. Mais attendez, c'est un combat pour nous tous, hein, Maud. C'est un combat, surtout en tant que parents, avec des enfants, etc. Nous sommes inquiets, mais le Seigneur, c'est un combat spirituel de pouvoir de combattre cette tristesse, cette inquiétude, cette peur et ce doute.
Voilà, ça veut dire que dans ce combat, il y a une part de notre volonté, puis bien sûr, il y a la grâce que nous recevons de l'Esprit, mais il y a aussi notre acte volontaire qui est de dire, oui, nous prenons la décision d'essayer de ne pas rentrer dans ces travers-là. Et de la même façon, on a ce travail aussi à faire par rapport à tous nos souvenirs, tout ce qui rejaillit dans nos mémoires, etc., qu'il faut remettre et déposer à chaque fois que quelque chose de douloureux revient pour nous libérer. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit Saint.
Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, on a du mal à se dire le travail de libération, c'est un travail surtout psychologique. Non, c'est d'abord un travail spirituel. La parole du Christ est très claire. L'évangile de Jean au chapitre 17 dit « En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes. La vérité vous rendra libre. » Père, dit le Christ, consacre-les dans la vérité. C'est parce que nous sommes consacrés dans la vérité que nous pouvons acquérir la liberté qui est la purification de nos âmes. C'est le travail d'adhésion, d'accueil de la vérité par l'Esprit Saint qui nous libère. Et il faut rentrer dans cette expérience de l'Esprit de vérité qui nous conduit à la vérité tout entière et qui nous conduit à la libération. C'est pour cela que nous sommes vraiment interpellés en tant que personne, en tant que couple, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons être libérés? Est-ce que nous ne voulons pas être libérés? Donc il nous faut crier vers le Père, crier vers le Seigneur, accueillir l'Esprit pour que cette libération spirituelle se fasse en nous.
Voilà, donc nous prions vraiment avec vous tous pour que l'Esprit Saint puisse envahir vos vies comme la nôtre et continuer son œuvre de guérison, de libération, pour que vous ayez la joie et la paix que le Christ nous promet et que nous puissions déjà goûter un petit peu de ce royaume de Dieu vers lequel nous allons avec grande joie.
Allez, soyez bénis et à la semaine prochaine.
The intimate friendship of the Holy Spirit.